pendant des minutes. Bonjour. Je suis pas spécialiste dans la matière, mais c'est un sujet qui m'intéresse fortement. C'est donc une technique d'attaque strictement matérielle, du moins par des physiques, de microprocesseurs et autres microcircuits. Donc les buts et les enjeux sont assez connus maintenant. Il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent avec des cartes à bus, des systèmes à microcircuits, quels qu'ils soient, du microcontrôleur et autres. La première chose à laquelle on pense, c'est qu'effectivement, une personne pourrait attaquer le microcircuit pour récupérer des chiffrements, des données personnelles, ou éventuellement des informations de conception de ce microcircuit lui-même, de façon à pouvoir récupérer donc plus de pouvoir sur le système. Télévision par satellite, par exemple, effectivement, la première chose à faire, c'est de récupérer des chiffrements, ou éventuellement un processus, un algorithme qui serait stocké dans le microcircuit. Deuxième chose, c'est effectivement pour une entreprise, entre guillemets, une mafia quelconque qui souhaiterait faire de la contrefaçon ou réduire ses coûts de recherche et développement, c'est de prendre le produit du voisin, d'essayer de démontrer ce qu'il y a dans la puce et d'essayer de comprendre le fonctionnement du circuit. Donc en faisant de l'analyse du microcircuit. Plusieurs techniques d'attaque, actuellement sur opérationnel, il faut savoir. Technique invasive, non-invasive et semi-invasive, ce sont donc trois techniques un petit peu différentes. Technique invasive, c'est grosso modo la plus coûteuse. C'est une technique consistant à mettre un œil du circuit, à récupérer une fois que le circuit donc, est visible, après avoir supprimé la qualité possible, récupérer donc un microscope et des microsondes qui vont permettre de positionner des analyseurs logiques sur les bus de données ou les registres éventuellement, afin de lire ce qui passe sur ces fameux bus. On peut ensuite récupérer effectivement les données qui vont circuler. Ça peut aller effectivement par une récupération de bits, mais carrément de données ou même de faits de caractère complexe. La rétro-ingénierie gagne en optique, il suffit simplement de grossir suffisamment, prendre des photos et on arrive dans des choses intéressantes. Troisième technologie pour la rétro-ingénierie, c'est la technologie par émission électromagnétique. Il s'agit grosso modo d'analyser tout ce qui sort au niveau des émissions électromagnétiques. On arrive à récupérer en fait une information très intéressante. La quatrième chose qui est intéressante, c'est également la possibilité d'utiliser des technologies donc à base de faisceaux d'ions, donc l'injection de gaz ionisé, de façon soit à mettre un œil sur un liquide du circuit, soit par injection de certains gaz comportant du platine. On peut refaire carrément des pistes au niveau du microcircuit, donc toujours s'appliquer des pistes pour pouvoir éventuellement mettre à zéro les systèmes de protection. La deuxième approche qui est beaucoup moins coûteuse, beaucoup moins complexe, c'est l'attaque non-invasive, qui est intéressante également, qui consiste non pas à altérer le microcircuit, mais à analyser un petit peu ce qui peut en sortir. Donc on va générer des failles au niveau de l'alimentation électrique. On va par exemple mettre une sous-tension ou une surtension très brève, qui va par exemple, à l'initialisation du circuit, provoquer des failles au niveau du système de protection. On peut également modifier le signal d'horloge, ou bien carrément mesurer les intensités qui sont générées, enfin, qui sont utilisées par le circuit. Dans MIS, vous avez dû voir des articles sur la récupération du RSA par la prise de courant ou autre, c'est exactement ça. L'attaque semi-invasive est une attaque intermédiaire qui permet en fait de récupérer par méthode de prise en règle générale la structure du circuit. Donc il s'agit de mettre à nu quand même uniquement avec de la symétrie concentrée le circuit, mais on garde la partie protection du silicium, ce qui fait qu'on n'a pas une dégradation complète du circuit. On peut par faisceau laser en fait attaquer le circuit. Il faut savoir que la technologie CMOS est assez fragile à tout ce qui est ionisation en laser, puisque simplement il y a un effet photovoltaïque qui se fait au niveau des transistors. On peut donc simplement par rayon laser mettre à 0 ou à 1 certains bits. Donc par exemple pour remettre à 0 les bits de protection qui sont censés protéger le microcontrôleur. On peut également par un autre effet induit lire ce qui se passe à ce niveau-là, également par laser, par ce qu'on appelle un scan laser, qui utilise une technologie un peu moins puissante et qui marche bien. On peut effectivement, ça a été fait, récupérer des coups de RSA sur des cartes, on va dire bancaires. Bon, c'est pas la portée de n'importe qui, mais ça peut se faire. Les avantages et inconvénients de cette technique sont, comme je l'ai expliqué, simples, c'est que l'attaque invasive est coûteuse et complexe à mettre en place. Cependant, c'est la plus efficace. L'attaque non-invasive, elle, est un petit peu empirique, puisque c'est un peu le hasard. Beaucoup plus, ça marche une fois de temps en temps. mais c'est quand même très simple à réaliser. Donc l'attaque semi-invasive, elle, je dirais, n'a quasiment aucun frein, puisque finalement elle est bon marché, elle reste relativement efficace, et c'est quelque chose sur lequel de nombreux chercheurs sont en train de plancher en ce moment. Quelques micro-circuits vulnérables, je vais donner quelques noms de RAM qui fonctionnent, enfin, sur lesquels on peut rattraper toutes les informations qu'on veut au niveau laser. Microcontrôleurs également, c'est quasiment tous les microcontrôleurs qu'on trouve dans le commerce sont vulnérables. La technologie, voilà, on va détailler complètement, on perd un groupe dedans, on analyse avec un microscope, on trouve la partie RAM, et en haut à la droite, on arrive à voir carrément où se trouve la cellule UTX. Voilà, donc actuellement il y a des sociétés qui sont en train de penser sur des mesures de protection associées, bien entendu. Donc première chose, c'est de chiffrer ce qui passe sur les lieux de données. Ça paraît ambitieux, mais c'est le cas. Dissimulation optique des modules consiste simplement à répartir de façon un petit peu disséminée les registres, les lieux de données et autres, de façon à ce que par microscope, on ait un peu de mal à repérer tout ça. Mise en place de capteurs d'attaque, aussi bien température, rayonnement ou autre, pour vérifier que quelqu'un n'est pas en train d'attaquer le circuit. Les deux technologies maintenant les plus avancées, ce sont les circuits à horloge indépendant, donc ceux qui publient l'horloge externe pour faire des calculs, donc on utilise une horloge interne pour éviter tous les problèmes d'attaque à ce niveau-là. Et la logique asynchrone qui consiste en fait à véhiculer les informations non plus sur un bit mais sur plusieurs bits, hein, de façon à pouvoir justement mettre des protections ou attaques. C'est plus difficile à attaquer et on peut véhiculer les cibles également. Donc voilà, la conclusion, c'est que l'attaquant est capable d'attendre tout, comme on peut le voir. Mais il faut aller un petit peu moins vite quand il n'y a pas d'anticiper, pour savoir qu'effectivement il peut imaginer le pire pour avoir quelque chose qui n'en sait rien. Quelques références, donc c'est Ross Anderson et Sergei Skorobogenov, qui travaillent dans un laboratoire à Cambridge, qui est un laboratoire spécialisé dans toutes ces études, et qui donc m'a donné l'autorisation de parler de leurs travaux. Et donc vous aurez dessous toutes les références et les white papers concernant ces travaux. Voilà.
$200, comme je disais, ça fonctionne.
Donc la technologie est relativement peu coûteuse, disons, compte tenu des enjeux qui peuvent être derrière. Alors certaines personnes utilisent effectivement des systèmes un peu sur du monde. Ça prouve qu'ils ont les moyens de faire tout ça.
Oui. On a une question là-bas, je crois.
Oui.
Non, c'est fini. Et bah,
les cartes opus, les sont bien situées, je pense aussi. Mais dans quelles applications sont utilisées les microcontrôleurs qui ne sont pas protégés? Parce que je ne pense pas que quelqu'un mette ça en place pour un truc qui n'est pas sensible.
Non, c'est très simple. Non, l'idée grosso modo des microcontrôleurs protégés, c'est qu'ils sont présents dans la quasi-totalité des équipements industriels. On achète absolument n'importe quoi maintenant, dans le domaine de l'électronique, il y a un microcontrôleur derrière. Le plus intéressant que les attaquants, c'est grosso modo l'entreprise concurrente qui voudrait voir comment le firmware est construit. C'est tout ça. La protection des données personnelles, il y a un frère. Il est que le mensonge.
Mais c'est pareil, ça le fait, ou ça c'est plutôt reverse engineering.
C'est plus pour reverse engineering pour récupérer un microcode, parce que l'entreprise concurrente veut faire la même chose. Et c'est quelque chose qu'on va proposer à la fin.
Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour.